Cette vidéo contient une publicité pour Hostinger. 17 juillet 2014, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines s'est abattu au-dessus de l'Ukraine. 298 morts. Le monde entier cherche le coupable et un post sur les réseaux sociaux va tout changer. Igor Streklov, commandant des séparatistes pro-russes, va se vanter. Il va écrire sur le Facebook russe « Nous venons d'abattre un avion militaire ukrainien ». Sauf que ce n'est pas un avion militaire. C'est un vol commercial. Quand il réalise son erreur, il panique, il supprime le poste, mais c'est trop tard. Une machine l'a déjà capturé, une machine qui n'oublie jamais rien, une machine qui a pour mission de préserver chaque trace de notre passage sur Internet. En novembre 2022, un tribunal de la Haye va condamner Igor Streklov à la prison à perpétuité pour le meurtre de 298 personnes. La preuve principale, c'est une capture d'écran de son poste supprimé, préservé par une bibliothèque que personne ne voit, mais tout le monde utilise. Son nom, c'est la Wayback Machine. Vous l'avez peut-être même, vous, déjà utilisé pour regarder avec amusement une ancienne version d'un site, par exemple. Son histoire à la Wayback, elle est encore plus dingue que ce que vous imaginez. Parce que derrière cette machine, il y a un milliardaire, pieds nus, qui vit dans une église. Un homme qui a décidé à 19 ans de reconstruire rien de moins que la bibliothèque d'Alexandrie, mais pour l'ère numérique. Et qui aujourd'hui possède quelque chose de vertigineux, un trillion de pages web. Un trillion de pages web, c'est-à-dire un million de pages. L'histoire entière d'Internet stockée dans des serveurs qui clignotent sous des arches gothiques. Et cette bibliothèque est en guerre. Et vous allez voir que les ennemis sont nombreux. Je vous emmène directement en 1980 au MIT de Cambridge. Et vous faites la rencontre d'un homme, Brester Cale, qui a 19 ans. Et un de ses amis lui pose la question existentielle. Il lui dit « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie quand vaille vraiment la peine ?» Et la réponse de Cale, c'est de reconstruire la bibliothèque d'Alexandrie pour l'ère numérique. Je veux dire, c'est fou comme réponse. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, à 19 ans? À l'époque, tout le monde trouve ça impossible. Internet, ça n'existe même pas vraiment, c'est au balbutiement. Mais Cale est sérieux. Il étudie l'intelligence artificielle avec Marvin Minsky, qui est un des pionniers du domaine, et il sort du MIT en 1982. À sa sortie, il va cofonder une entreprise de superordinateurs. Et en 1989, il invente l'un des premiers systèmes de publication sur Internet, le WAIS, W-A-I-S. Je vous passe directement en 1992 où il crée une entreprise qui va le rendre millionnaire. C'est important pour l'histoire. Ça s'appelle Alexa Internet. Le nom n'est pas un hasard, Alexa Internet. C'est un hommage direct à Alexandrie. Il a toujours son truc de vouloir reconstruire la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et là, vous vous dites peut-être, ben, c'est rigolo parce que Alexa Internet, c'est comme Alexa de Amazon. Sauf qu'on est en 1992, donc forcément, ça n'a aucun rapport. Ou pas. Parce que c'est Amazon qui rachète Alexa Internet en 1999 pour 250 millions de dollars en actions. Mais Cale négocie quelque chose de bizarre dans son contrat. Toutes les données continueront d'alimenter son projet secret. Un projet qu'il a lancé 3 ans plus tôt, depuis le grenier de sa maison à San Francisco. Avance rapide de 4 ans dans le temps, avril 1996, Cale commence à archiver Internet. Le web entier fait 2,5 teraoctets. C'est ridicule par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il intègre 150 teraoctets par jour. Mais personne n'est au courant à l'époque qu'il fait ça. Pendant 5 ans, Cale archive en secret sur des bandes magnétiques tout ce qu'il peut. Il attend, il accumule. Pour le 5e anniversaire de son projet secret, il dévoile tout. Ni plus ni moins, juste tout. L'événement a lieu à Berkeley, Cale monte sur scène et il montre une page du site de la Maison Blanche, page datée du 10 septembre 1996. Sur le site, une déclaration du président Clinton qui déclare que la prévention des attaques terroristes est une priorité nationale. Sauf que là, on est à 6 semaines après le 11 septembre 2001. Le timing est glaçant. Et Cale fait l'annonce suivante et dit « Nous avons archivé 10 milliards de pages web. Et maintenant, n'importe qui peut voyager dans le temps directement sur notre machine. » Le nom de cette solution, le nom de cette machine, c'est bien la Wayback Machine, un nom qui est tiré d'un dessin animé des années 60 où un chien scientifique et son fils adoptif voyagent dans le temps. Et vous allez voir que ce nom n'a jamais été aussi bien choisi. D'ailleurs, en parlant de créer quelque chose d'ambitieux sur Internet, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Hostinger. Si vous avez un projet, un business ou même l'envie de lancer votre boutique en ligne, mais que l'idée de créer un site, ça vous semble compliqué, vous allez voir, tout devient beaucoup plus simple. Avec Hostinger, créer un site web, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Pas besoin d'avoir une compétence technique, il n'y a aucun talent en design qui est requis. Leur créateur de site web assisté par l'IA fait pratiquement tout pour vous. Alors, vous répondez à quelques questions et en quelques secondes, l'IA génère un site complet, texte, images, structure, logo, blog, tout. Vous n'avez plus qu'à personnaliser selon vos envies grâce à une interface super intuitive. Le plan business, c'est une solution tout en un très pratique. Hébergement rapide sur des serveurs NVMe à Paris, nom de domaine offert la première année, 5 adresses email pro, intégration marketing, outils e-commerce et même un module de marketing pour email pour envoyer vos newsletters par exemple directement depuis la plateforme. Tout est gérable depuis votre smartphone grâce à l'éditeur mobile. Hostinger propose aussi toute une suite d'outils IA en plus, générateur de texte, générateur d'images, de logos, créateur de fiches produits, SEO assisté. C'est parfait pour booster votre site sans effort et le tout à un prix vraiment abordable, surtout si vous choisissez un abonnement longue durée jusqu'à 48 mois pour profiter du meilleur tarif. Avec toujours 30 jours pour changer d'avis. Donc si vous voulez donner un vrai coup d'accélérateur à votre présence en ligne, c'est le moment. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et à utiliser mon code FabienOlicard, ça vous fait bénéficier de 10% de réduction supplémentaire. Et revenons à notre histoire, parce que Kyle, lui, il ne s'est pas contenté d'archiver Internet depuis un serveur quelconque. Laissez-moi vous raconter où tout est stocké aujourd'hui. 2009, San Francisco, quartier de Richmond. Imaginez une église de style néoclassique qui est en vente. Elle a été construite en 1923, elle a été abandonnée par une congrégation en déclin. Et Kyle va visiter le lieu, et juste en voyant le lieu entier, il se dit « Mais ça, c'est notre logo, ça !» C'est notre logo grec. Parce que le logo de toute la machinerie qu'il y a autour de la Wayback Machine, l'Internet Archive, c'est un temple grec. Et l'église a des colonnes classiques, un fronton, des arches. Kyle achète le bâtiment pour la modique somme de 4,5 millions de dollars et transforme une église en data center. Fallait le faire. Vous avez des rangées et des rangées de serveurs qui clignotent en bleu sous les vitraux, un orgue à tuyaux qui fonctionne toujours, c'est quand même le seul data center au monde avec un orgue, et à la place des numéros de quantique, à côté de l'hôtel, il y a deux chiffres, pi et le nombre d'or. Et c'est pas tout. Après avoir visité l'armée de terre cuite de Xi'an en Chine, Kyle a une idée. Il décide de créer sa propre armée, si on peut dire une armée, mais de soldats de terre cuite, ce sont les archivistes de terre cuite. Vous pouvez en faire partie. Hein. Il suffit de travailler 3 ans à l'Internet Archive et vous avez le droit à la fin à votre statut. C'est une artiste irlandaise qui s'appelle Muala Creed qui sculpte votre visage en céramique et qui est déposée dans ce lieu. Aujourd'hui, il y a plus de 120 statues d'employés qui sont assises sur les bancs de l'église. C'est à la fois magnifique et un peu flippant. On dirait un peu une armée silencieuse qui veille sur la mémoire d'Internet qui clignote d'un peu partout. Et cette mémoire, parlons-en, très récemment, là, en octobre 2025, l'Internet Archive franchit un cap historique, 1 trillion de pages web archivées. 1 million de millions de pages, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous donner une idée. Si vous vouliez lire toutes ces pages à raison d'une par seconde, il vous faudrait plus de 31 millions d'années. Voilà, voilà, voilà. Ça fait long. Mais le chiffre, ça dit pas tout. Parce que ces pages, elles disparaissent. Du moins, elles disparaissent d'Internet, pas de l'archive. En moyenne, une page web est modifiée ou supprimée au bout de 100 jours. C'est ça, apparemment, la stat officielle, 100 jours. C'est pour ça que Kyle ne dort jamais tranquille. Il veut archiver et il ne veut pas perdre ce qu'il a archivé. Alors, il a installé 6 data centers dans 3 pays. Il a même envoyé une copie complète en Égypte, ce qu'on appelle un serveur miroir. Et là, accrochez-vous, parce que c'est complètement dingue. En 2002, Kyle signe un partenariat avec Bibliotheca Alexandrina. Ça doit sonner à votre oreille, vous savez, c'est la nouvelle bibliothèque qui a été construite en Égypte sur un site très proche de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie, celle qui a brûlé il y a 2000 ans. Le projet, c'est d'installer 880 ordinateurs qui stockent 1,5 pétaoctets, c'est redoutablement considérable, dans 23 racks de serveurs. C'est le seul backup externe de l'Internet Archive dans le monde de la Wayback Machine, à la place de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie qui, je vous le rappelle, voulait agglomérer toute la connaissance du monde dans un même lieu. La boucle est bouclée. Je trouve ça fascinant. Pour tout vous dire, C'est le point de départ de cette vidéo, de mon envie de l'écrire et de faire des recherches quand j'ai découvert ça. Après, j'ai découvert autre chose dont je vais vous parler. Mais Kay le dit lui-même, hein, pourquoi la bibliothèque d'Alexandrie est la plus célèbre des bibliothèques? Parce qu'elle a brûlé. Parce que tout est brûlé, tout est parti. Et ça a meurtri en vrai l'humanité, hein, parce qu'il y a des choses qu'on récupérera jamais, du savoir, du témoignage. Et lui a dit, je ne dormirai donc jamais tranquille tant qu'il n'y aura pas 5 ou 6 sites de backup. Il a raison d'être parano. Parce que les ennemis, ses ennemis, ne dorment pas non plus. En 2020, quand le monde entier se confine à cause du Covid-19, les étudiants et les chercheurs n'ont plus accès aux bibliothèques, ok? Kyle va décider de lancer la National Emergency Library. 1,4 million de livres, numérisés, accessibles, sans liste d'attente, gratuitement, sans inscription, sans rien. C'est un geste généreux. Sauf que la générosité dans le monde capitaliste, c'est compliqué. Donc, quatre des plus grands éditeurs mondiaux achètent HarperCollins, Penguin Random House et Wiley portent plainte. Violation massive du copyright. L'Internet Archive ferme la bibliothèque d'urgence, donc 2 semaines plus tôt prévu. Trop tard. Le procès commence. Et ce qui se joue, c'est est-ce qu'une bibliothèque a le droit de numériser un livre qu'elle possède physiquement et de le prêter en version numérique? C'est ça, en fait, hein, qui se joue. 25 mars 2023, le juge rejette la défense du fair use, l'archive perd, elle fait appel, elle perd à nouveau et en décembre 2024, elle renonce à saisir la Cour suprême. Résultat, c'est plus de 500 000 livres qui sont retirés du prêt, un accord à l'amiable dont le montant n'a jamais été révélé, mais on parle de dizaines de millions de dollars a priori. Et c'est pas fini parce qu'en août 2023, Universal Music, Sony Music et Concord attaquent l'archive pour un autre projet que je trouve merveilleux, The Great 78 Project. C'est-à-dire que depuis 2006, l'archive numérise 400 000 disques vinyle 78 tours. Ces disques ont entre 70 et 120 ans. Ils sont fragiles dans leur construction d'origine. Beaucoup n'existent plus. Du Frank Sinatra, du Billie Holiday, du Louis Armstrong, des enregistrements historiques. Les labels réclament 621 millions de dollars. Ils veulent 150 000 dollars par titre, multiplié par 2749 enregistrements. Voilà. La défense de Kyle, c'est de dire que quand les gens veulent écouter de la musique, ils vont sur Spotify. Ben, quand ils veulent écouter des enregistrements 78 tours tels qu'ils ont été créés à l'origine, eh ben, ils peuvent aller que dans des bibliothèques comme celle de l'Internet Archive. Il va quand même être soutenu par 850 musiciens qui signent une lettre de soutien. 125 000 personnes signent une pétition. Et en septembre 2025, un accord, encore une fois confidentiel, va être trouvé. On ne saura jamais combien l'archive a payé. Mais pendant que Kyle se bat dans les tribunaux, quelqu'un d'autre prépare une attaque bien plus violente. En octobre 2024, 31 millions de comptes sont piratés. Oui, email, nom d'utilisateur, mot de passe, tout ça s'est dévoilé. Une base de données de 6,4 gigaoctets va être exposée sur le dark web. Vous en avez peut-être entendu parler, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, les hackers laissent un message sarcastique sur le site de la Wayback. Avez-vous déjà eu l'impression que l'Internet Archive tient avec des bouts de ficelle et est constamment au bord d'une faille de sécurité catastrophique? Ça vient d'arriver. Mais ça, c'est que le début. Le même jour, une attaque DDoS massive va paralyser tous les services. Un groupe activiste le revendique pour des raisons politiques, sauf que l'Internet Archive, c'est une organisation indépendante de tous les États, à but non lucratif. C'est pas un organisme gouvernemental. L'attaque va durer 6 heures. Une attaque DDoS, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de fausses roquettes par seconde envers le site, qui sature, qui n'arrive pas à répondre. Et comme si c'était pas assez, le 20 octobre, les hackers reviennent. Ils exploitent des clés API, hein, des points de connexion, on va dire, non changés. Et ils exposent 800 000 tickets de support client, dont certains contiennent des documents d'identité personnelle. Kyle se prononcera là-dessus plus tard avec un petit euphémisme britannique qui va dire « ça a été un peu difficile ». Mais vous savez quoi? 5 jours plus tard, la Wayback Machine est de retour. Et le 22 octobre 2025, l'Internet Archive annonce le trillion de pages. Le mois d'après, il obtient le statut officiel de bibliothèque fédérale dépositaire aux États-Unis. Parce que Kyle ne lâche rien, jamais. Et laissez-moi vous raconter quelques sauvetages qui n'auraient jamais dû exister si ça n'avait pas été mis en place. En 2009, Yahoo annonce la fermeture de GeoCities. Si vous ne connaissez pas le nom, c'était le site des années 90. 38 millions de pages personnelles avec des gifs animés, des fonds qui clignotent, des fichiers MIDI. En vrai, c'est la préhistoire du web. Kyle lance un appel, il faut sauver GeoCities. Il y a des centaines de volontaires qui se mobilisent, ils téléchargent frénétiquement pendant des semaines toutes les pages. Résultat, 900 gigaoctets de sauvés, une capsule temporelle de l'Internet d'avant. S'il n'y avait pas ça, Eh bien, à part nos petites mémoires, on n'aurait plus de traces de ça. Je veux dire, c'est fou. C'est un peu comme les Skyblogs d'avant ou MySpace. En 2019, le site annonce avoir perdu plus d'une décennie de musique uploadée par des groupes indépendants. Officiellement, un problème de migration de serveurs. Mais entre 2008 et 2010, quelqu'un avait capturé 490 000 fichiers MP3 par hasard. L'archive récupère ces fichiers et les publie 1,3 teraoctets sous le nom de The MySpace Dragon Horde. 2017 puis 2025, à chaque investiture de Trump, des milliers de pages gouvernementales disparaissent. L'archive documente 73 000 pages supprimées en 2025. Même une page sur la Constitution américaine est retirée du site de la Maison Blanche. Kyle ne commande pas. Il fait pas de politique, il n'est pas pro-Trump, il n'est pas anti-Trump, il archive. Et le cas le plus fou, c'est peut-être celui dont je vous ai parlé au début. Vous vous souvenez ou pas? Igor Strelkov et le vol MH17. Strelkov se vante d'avoir abattu un avion, il supprime au poste trop tard, la Wayback Machine l'avait capturé. Cette capture d'écran, ça devient une pièce à conviction dans un procès international. Une machine invisible a servi la justice. Et c'est pas un cas isolé. En 2018, un tribunal américain statue que les archives de la Wayback Machine sont, je cite, des preuves légales recevables. Des brevets sont invalidés grâce à des pages archivées par la Wayback. Des affaires de diffamation sont tranchées. La Wayback Machine se contente de tout enregistrer et un jour, peut-être, ce qu'elle a gardé va pouvoir témoigner de la vie d'avant, d'un internet d'avant. Peut-être que ce qu'elle a gardé en tête, ça va changer le cours d'un procès, d'une vie. Peut-être que ça va changer le cours de l'histoire. Je vous ai pas beaucoup parlé de Kyle de l'homme. Ok, je vous ai dit qu'il était milliardaire, ça c'est vrai. En vendant ses entreprises, il a gagné des centaines de millions. Vous savez ce qu'il en a fait? Il a tout réinvesti dans l'Internet Archive. Le budget annuel de l'archive, c'est 75 millions de dollars. C'est moins que le budget de la bibliothèque publique de Washington DC. Avec ça, il emploie 200 personnes. Maintient 6 data centers, ingère 150 teraoctets par jour et ces gens-là archivent l'histoire entière d'Internet. Peut-être même simplement cette page YouTube. Kyle ne se verse pas de salaire extravagant, il vit plutôt modestement. Il se promène, souvent a priori pieds nus, dans les bureaux et chaque vendredi à 13h, il organise des visites gratuites de son église data center pour le grand public. Il y a une interview où il y a quelqu'un qui lui demande « qu'est-ce qui vous fait lever le matin ?» et il a répondu l'idée qu'on pourrait avoir un accès universel à toute la connaissance. On a une opportunité qui n'arrive qu'une fois par millénaire, qu'on passe de l'oral au manuscrit, du manuscrit à l'imprimerie, ou là, en l'occurrence, de l'imprimerie au numérique. Là, maintenant, on peut tout préserver, tout. Et il n'a pas tort, un article que vous lisez aujourd'hui aura disparu probablement dans 3 mois. Une page web que vous consultez ce soir sera peut-être modifiée demain. Et sans l'Internet Archive, personne ne s'en souviendra. Est-ce que c'est normal qu'un seul homme, qu'une seule organisation ait autant de pouvoir sur notre mémoire collective? Je crois que non. Mais en fait, Kyle aussi pense que non. C'est pour ça qu'on fait tout en open source, c'est pour ça qu'on a des backups partout, c'est pour ça qu'on forme des partenariats avec d'autres bibliothèques, parce que si l'Internet Archive disparaît un jour, quelqu'un d'autre doit pouvoir continuer. Il rêve d'un web décentralisé où chaque bibliothèque, chaque université, chaque pays même aurait sa propre archive. Mais en attendant, c'est lui. C'est lui, c'est son église, c'est ses serveurs qui clignotent en bleu, c'est ses guerriers de terre cuite qui montent à garde, et c'est son trillion de pages web qui racontent notre passage sur Terre. Alors la prochaine fois que vous irez sur archive.org ou que vous tomberez sur un lien mort qui vous renvoie vers une page archivée, pensez à ça, pensez à un homme de 19 ans qui s'est dit un jour « Et si je reconstruisais Alexandrie ?» Pensez à 298 familles qui ont eu justice grâce à un poste supprimé. Pensez à des milliers de pages gouvernementales qui auraient disparu sans laisser de traces. Pensez à Geocities, aux 78 tours, à MySpace, à Skyblog, à l'ancienne version de Facebook, à la première version de YouTube, à toutes ces choses que personne ne pensait importantes et qui pourtant racontent qui nous étions, parce que c'est ça l'Internet Archive. C'est pas juste une machine qui enregistre des pages web à la chaîne. C'est une déclaration de guerre contre l'oubli et ça me fascine. Pendant 2000 ans, il y a eu la bibliothèque d'Alexandrie, elle a brûlé, et nous en 2025, il y a un gars qui veut pas laisser brûler la nôtre. Je profite également de cette fin de vidéo pour vous dire que ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté la nicotine. Ça n'a rien à voir, j'en ai bien conscience, mais pendant 26 ans, j'ai été addict à la nicotine avec des tests qui ont montré que ça agissait comme une drogue dure sur moi, c'est-à-dire que la nicotine, c'était aussi fort que de la cocaïne, par exemple, sur moi. J'ai fait des recherches il y a 2 ans pour me monter une méthode sur mesure qui m'arrêterait à m'arrêter sans substance, sans produit de substitution, sans que ce soit une grande galère, etc. Bon, ça fait 1 an et demi, ça se passe très très bien, j'en suis très heureux. J'avais mis cette méthode à disposition un petit peu en PDF pour ceux qui la voulaient, mais ça a du mal à se diffuser l'info. Donc j'en ai fait carrément un petit livre. Alors, c'est la méthode, elle est en 9 piliers scientifiques, donc je l'ai extrapolé au-delà de la nicotine sur les addictions. Ça donne ce petit livre, t'es disponible partout au prix de 9,95€. Voilà, je le place juste là pour en parler au moins une fois sur cette chaîne YouTube. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à Ostinger d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien de Ostinger dans la description. Prenez soin de vous. Bonne année 2026. À très bientôt. Ciao.